Il y a un sujet qui est la notion d'accélérer. Et moi, c'est toujours une question que je me pose aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu investisseur chez 2050 avec Marie Eklund. Et donc, on se pose toujours aussi cette question qui rejoint aussi la question du scale. Hein, tu parlais de la difficulté tout à l'heure de traduire le mot scale.
Enfin, échelé.
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 Alors moi, ça me fait penser un peu à échevelé, du coup. Je ne sais pas si c'est bien, mais je...
Oui, mais non, on va s'habituer. On va s'habituer. si tu voilà. trouves mieux, vas-y, mais ouais, non, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour trouver le mot.
Parce que les Canadiens, ils arrivent, les Québécois. Ils sont là, ils sont juste derrière.
C'est là, j'en ai croisé un tout à l'heure.
Donc, en fait, il y a la question d'accélérer. Alors, en fait, cette question du scale, de l'accélération, etc., c'est une question qu'on se pose en tant qu'investisseur. On va mettre de l'argent dans une boîte. Et quand on prend du capital, il faut qu'elle grossisse parce qu'on partage le gâteau, c'est-à-dire la table de capitalisation, hein, les pourcentages d'actions. Et donc, il faut absolument que ce gâteau grossisse. Ça, c'est, je dirais, le modèle économique. Sinon, on ne gagnera pas d'argent. Malgré tout, on est aussi dans un sujet aujourd'hui où... je reprends le côté un peu, parfois un peu avocat du diable. Mais on dit aussi qu'aujourd'hui, l'ultra-croissance ou la croissance à tout prix, growth at all cost, dans un monde fini, parce qu'on parle de ce fameux monde fini, hein, c'est l'accès aux matières premières. Et le transport, c'est aussi forcément, d'une certaine manière, une ressource finie, parce qu'il y a derrière, il y a les moyens de transport qui font appel aussi à des fabrications industrielles, etc. Donc on est dans un référentiel fermé. Donc est-ce que cette idée d'accélérer, qui est une nécessité économique, elle est compatible avec cette nouvelle tendance? Je sais que c'est un sujet qui te préoccupe, hein, cette question qu'on appelle de l'impact environnemental, social, etc.
Complètement, c'est-à-dire qu'il faut voir ce que tu fais grandir. Si dans l'œuf, ton truc, il consomme ou il surconsomme des matières premières ou bien des ressources rares de manière générale, ou bien il pollue, faut pas le faire grandir. En revanche,
il y a le sujet éthique déjà, par principe, et puis il y a le fait que si les ressources sont finies, à un moment, il y aura une fin à la capacité de grandir aussi d'un point de vue très pragmatique.
Voilà, et donc en fait, aujourd'hui, la technologie permet d'aller inventer des modèles dans lesquels, justement, on fait une meilleure utilisation et on améliore notre environnement. BlaBlaCar aujourd'hui permet l'économie d'1,6 million de tonnes de CO2 par an. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc, on compense intégralement la pollution du trafic routier de Paris grâce à BlaBlaCar. Alors, 1,6 million de tonnes, pour vous donner une idée, un pays comme la France, ça émet 500 millions de tonnes par an à peu près. Donc, 1,6 million de tonnes, c'est 0,3%. C'est bien, mais enfin, c'est vraiment qu'un début. Enfin, il faut aller beaucoup plus loin. Mais n'empêche que plus BlaBlaCar grandit, plus on diminue les émissions de CO2. Pourquoi ? Par un calcul simple, c'est qu'on met plusieurs personnes dans une voiture au lieu d'en garder une seule. Et il n'y a pas besoin, là, pour le coup, d'avoir fait des grandes études pour comprendre qu'il vaut mieux deux personnes par voiture que deux voitures par personne. Enfin, je veux dire, au niveau environnemental, c'est juste ultra, ultra simple. Et donc, du coup, quand on développe un modèle comme ça, on est même allé calculer, nous, les émissions globales de l'équipe BlaBlaCar. Tu vois, il y a 700 personnes dans plusieurs locaux. On se déplace, on mange, on a des serveurs. On se chauffe, on se refroidit l'été pour pouvoir bosser. Donc, tout ça, on l'a mis en équation et on a compté que tout ça, toute cette consommation-là, c'est 625 fois moins que les économies de CO2 que l'activité de BlaBlaCar permet de générer dans le monde physique. Donc, en fait, à chaque fois que BlaBlaCar se développe de 1 de plus, on fait 624 d'économies dehors d'un point de vue environnemental. Ça, tu peux le scaler parce que c'est quelque chose qui réduit les émissions. Après, tout ce qui va être économie circulaire aussi, ça va dans le même sens. La technologie nous permet aujourd'hui de massivement inventer des mécanismes dans lesquels on va réduire certaines pollutions. Ça, il faut le scaler. Donc, en fait, la technologie peut apporter des solutions comme ça, mais il faut vraiment se poser la question, effectivement, de la technologie qu'on invente et si elle va être boulimique et, en fait, démultiplier le problème ou bien si elle va faire partie de la solution.
Alors là, on prenait l'exemple BlaBlaCar, mais plus largement, et c'est l'objet de cet ouvrage, pour accélérer, toi, tu conseilles deux choses, simplifier, s'affirmer.
Tu l'as dit.
du coup, c'est très simple. mais autour de l'action performe,
oui.
Le produit, l'encadrement, la robustesse, le financement, l'option, la répartition, et le message. Moi, je reviens juste sur la notion de simplifier. Jusqu'où on peut simplifier et comment on simplifie, tu vois.
Alors,
on a toujours envie de proposer, de proposer plus, et en même temps, il faut un produit simple à comprendre, à utiliser.
Ouais, etc. Voilà. En fait, c'est extrêmement dur de faire un produit très simple. Ça veut dire que c'est toi qui as intégré la complexité et ou que tu as fait des choix qui t'ont fait ne pas proposer des choses qui sont juste un tout petit peu annexes. Donc tu as choisi de ne pas proposer autre chose qui était moins efficace. Donc tu as choisi une forme de simplicité, y compris dans la compréhension de l'utilisation de ton service et évidemment dans son utilisation elle-même. Et donc du coup, quand tu fais comme ça, tu peux aller plus loin parce que c'est plus facilement accepté, acceptable par tout le monde. Par contre, ça veut dire que des fois, c'est toi qui vas te coder, te développer la manière de gérer le côté complexe pour que pour le client ce soit facile. Et donc c'est le rôle justement de tes premiers clients qui vont t'expliquer dans leur parcours où est-ce que ça a été compliqué. Et ton rôle à toi, c'est de te demander si tu n'as pas une manière d'automatiser la résolution de la complexité qu'ils ont rencontrée. Et si tu le fais, à ce moment-là, les prochains qui vont arriver vont même plus se rendre compte de la complexité que tu as résolue puisque tu l'as intégrée dans ton produit. Donc, tu l'as fait pour eux. Par contre, ils vont en repérer d'autres. Et petit à petit, comme ça, tu progresses vers un produit qui est de plus en plus simple parce que tu dégommes au fur et à mesure les complexités que tes clients rencontrent. Et donc, tu deviens de plus en plus accessible pour tout le monde parce que justement tu deviens un produit simple à utiliser.
Souvent on a tendance à vouloir avoir plein de features dans son offre. Typiquement, est-ce qu'il y en a que vous avez finalement décidé de squeezer, soit pas les mettre en ligne, soit à force d'usage?
Ouais, c'est une volonté d'exposition parfois parce que trop d'infos tue l'info. Donc en fait tu choisis plutôt parfois des features ou des informations de les mettre, mais peut-être plus en première lecture, mais en deuxième pour quelqu'un qui veut vraiment aller les chercher. Et donc là, tu vois quelles sont les informations les plus importantes que quelqu'un va vouloir aller chercher quand il cherche un covoiturage. Donc tu lui mets les infos les plus importantes, puis après, s'il veut aller creuser et s'il veut en avoir plus, bah, il peut toujours, mais c'est plus en première lecture. Donc c'est une question d'hiérarchisation de l'exposition de l'information.
En fait, oui, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est qu'il faut savoir donc quand même décider, garder le cap en fait sur cette simplification. Est-ce que c'est facile de faire en sorte que tous les collaborateurs arrivent dans cette vision-là ? Tu arrives à réunir tout le monde sous cette idée de simplification ?
Ah bah ça, c'est un enjeu d'explication. Je pense que tout le monde a envie que le produit marche. Oui, ça forcément, ça devient un enjeu d'explication de la vision, de stratégie pour y arriver, de management. Donc ça, c'est... je ne sais pas s'il y a une recette miracle à part être le plus clair et explicatif possible et argumenter sur pourquoi on fait comme ça ou pourquoi on ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que embarquer tout le monde derrière des modifications de manière générale, ça demande beaucoup d'explications parce que sinon on tombe dans un mode qui serait et qui n'est évidemment qui n'a jamais été compatible avec n'importe quelle époque, mais qui encore aujourd'hui est d'autant plus incompatible, qui serait d'aller imposer on fait comme ça et pas autrement sans expliquer. Et alors là évidemment personne ne suit parce que tout le monde dit bon bah on fait comme ça parce que lui il a dit qu'il fallait faire comme ça, mais ça n'a peut-être t'as embarqué personne à part que les gens vont y aller en traînant des pieds puis ils vont le faire quand même parce que voilà on les a obligés, mais c'est pas du tout une transformation par l'envie.